Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
À partir de vendredi, les 24 meilleures équipes féminines de football vont s'affronter pour la Coupe du Monde de football. La France accueille pour la première fois cette compétition. Les Américaines, championnes en titre de ce tournoi, seront concurrencées par d'autres équipes données favorites comme l'Allemagne, l'Angleterre, le Japon et la France, quatrième au classement de la FIFA. Mais alors que les femmes ne représentent que 8% des licences du football français, le foot est-il misogyne et plus généralement, peut-on dire que le sport est toujours sexiste? Pour en parler, je suis en compagnie de Béatrice Barbus. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez un profil tout à fait atypique, Béatrice. Béatrice Barbus, puisque vous êtes sociologue à l'université de Créteil, mais vous êtes aussi dirigeante sportive, vous êtes autrice du livre « Sexisme dans le sport » paru aux éditions Anamosa, vous êtes une ancienne joueuse de handball au niveau national. Le handball, c'est la petite
handball.
Voilà, déjà, ça commence bien.
Hein.
Ça commence pas bien.
Alors, c'est donc, le seul handball... sport qui n'a pas d'origine américaine.
Alors justement, racontez-nous ce qu'est le handball, ou racontez-le-moi en tout cas, parce que moi je me souviens que c'était une petite balle qui faisait très mal et que je détestais attraper, mais vous savez mieux que moi ce dont il est question dans le handball.
Bah, le handball, c'est un sport qui nous vient du nord de l'Europe, qui a justement été... le handball à 11 au départ, parce qu'au départ c'était du handball à 11, on le jouait sur un terrain de football. Et il a été inventé justement par un professeur de PS allemand qui considérait que le football traditionnel était trop violent pour les filles. Donc il a inventé ce sport pour les femmes. Et puis par ailleurs, dans une autre zone géographique, dans les pays scandinaves, on a le handball à 7 qui s'est développé et il a eu la concurrence des deux en même temps, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le handball à 7, celui que vous avez joué à l'école très certainement.
Et c'est un sport, il me semble, très très violent.
C'est un sport à contact, violent.
À contact, comme on dit.
Violent, donc dès qu'il y a contact, on peut considérer qu'il y a violence. Oui, c'est un sport qui peut devenir effectivement très violent, je le confirme.
Vous avez été la première femme, Béatrice Barbus, à présider un club sportif professionnel masculin, le club de handball donc d'Ivry, de 2007 à 2012, un club qui a été champion de France en 2007. Racontez-nous ce que vous avez dû surmonter pour parvenir à ce poste-là.
Alors pour parvenir à ce poste-là, j'ai pas dû vraiment surmonter grand-chose parce qu'en réalité, je suis devenue présidente un peu par défaut. Comme c'est souvent le cas pour les femmes, y compris en entreprise et en politique, quand vous ne savez pas qui mettre et que la seule personne qui a à peu près les compétences qu'il faille, eh ben on vous prend. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et d'ailleurs, j'ai été élue à très peu de voix la première fois. Donc il a fallu très rapidement que je fasse mes preuves en tant que présidente. Et mes preuves, je les ai faites plus ou moins rapidement, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant d'être présidente dans ce club, j'avais fait une recherche-action pendant 3 ans au sein de ce club, qui a donné lieu d'ailleurs...
Une recherche-action, c'est-à-dire ?
Dans la continuité de ma thèse portait sur les relations entre le sport et l'entreprise en matière de gestion des ressources humaines, et je voulais, dans le cadre de cette thèse, dans cette continuité, je voulais explorer un peu plus précisément comment on manageait les sportifs professionnels et de quelle façon on pouvait aussi améliorer le management, puisque je partais de l'hypothèse que j'avais essayer de valider dans ma thèse, que le management dans le sport était fondamentalement autocratique et très autoritaire. Donc je voulais voir ça de plus près et voir comment on pouvait améliorer, parce que moi personnellement j'en avais souffert en tant qu'ancienne handballeuse de haut niveau. J'avais souffert de ce mode très autoritaire que l'on a dans le sport.
Oui, parce que c'est un peu l'image qu'on a de l'entraîneur, du dirigeant sportif.
Oui, voilà. Donc j'ai fait une recherche action dans ce club pendant 3 ans aux côtés des entraîneurs et dans le staff. Je faisais un peu fonction pour les joueurs de ce qu'on appelle aujourd'hui préparatrice mentale. Donc le club ne mettait pas inconnus, les joueurs ne m'étaient pas inconnus et les dirigeants me connaissaient un petit peu. Donc voilà comment je suis arrivée et dans quelles circonstances. Et on a été en plus, donc j'ai pas eu trop de mal à faire mes preuves dès le départ puisqu'on a été champion de France dès ma première année de présidence, dans la continuité de tout le travail qu'on avait effectué jusqu'à avant.
Justement, j'allais vous demander pourquoi vous êtes devenue champion de France et vous, championne de France en tant que dirigeante sportive, Béatrice Barbus. D'après vous, quelle part de travail avez-vous fait qui a permis donc à cette équipe d'atteindre la première place?
Là, c'est une question à laquelle je ne peux absolument pas répondre. Vous connaissez aussi bien que moi, de par votre formation en sociologie, qu'il y a des variables qu'on ne peut pas parfois isoler. Là, en l'occurrence, le résultat sportif, c'est un résultat collectif. Tout le monde y a apporté sa contribution, que ce soit le préparateur physique, celui qui analyse les vidéos, que ce soit le directeur sportif, que ce soit bien évidemment les joueurs ou les dirigeants. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai compté, puisque... à la fin, quand il y a eu la remise des médailles, comme je n'en avais pas le droit à une officielle, l'entraîneur principal a souhaité m'en remettre une officiellement malgré tout, en me disant que j'y avais beaucoup contribué. Donc oui, j'y ai contribué, de quelle façon et comment, je n'en sais rien précisément. Enfin si, comment, mais... Est-ce que j'y ai contribué à 5, 10, 20, 30%? Ça, je ne le sais pas.
Béatrice Barbus, vous qui êtes à la fois sociologue et donc dirigeante sportive, comment avez-vous vécu les rapports hommes-femmes sur le terrain quand vous étiez dirigeante, quand vous deviez, dans le reste du handball, les instances, tout ce qui constitue finalement ce sport, être en tant que dirigeante parmi les autres, qui sont, j'imagine, quasiment tous, sinon tous des hommes d'ailleurs.
Qui sont tous des hommes, oui, j'étais la seule femme en général.
Quand ça s'est passé comment ?
Alors, avec les personnes qui extérieures au club, en général, ça s'est passé très très bien. Ça s'est passé même, oui, très bien avec tous les joueurs des autres clubs, avec tous les entraîneurs, avec tous les autres présidents, avec les personnes qui représentaient les institutions du handball, que ce soit de la fédération ou de la ligue professionnelle de handball. Ça s'est passé excellemment. En fait, ça se passe mal dès que vous faites tout commencer à faire de l'ombre à des personnes, en l'occurrence des hommes, qui sont à des postes depuis très longtemps et que vous arrivez et que vous montrez certaines compétences, vous apportez certaines valeurs ajoutées. Là, d'un seul coup, ça peut poser problème, surtout quand vous vous opposez par rapport à certaines décisions. Bref, que vous commencez à vous affirmer en tant que présidente. C'est là que ça commence à poser.
Ça se traduit comment ?
Alors, ça se traduit par de l'indifférence la plus totale. Donc, c'est par exemple, vous êtes dans une salle et c'est comme si vous n'y étiez pas. Voilà, l'entraîneur parle au directeur sportif sans faire cas de votre présence. Ça se traduit aussi parfois parce qu'on oublie que vous êtes présente dans une salle et que vous êtes une femme. Donc, vous entendez les grosses blagues graveleuses que peuvent faire les hommes quand ils sont entre eux. Ça se traduit également par des scènes comme celle que je raconte dans mon livre où la personne qui s'occupe d'accompagner l'équipe et qui s'occupe de toute la logistique fin un acte sexuel avec vous dans un train devant tout le monde à 8h du matin. Voilà, alors que vous êtes dans le train au milieu des passagers, de monsieur, madame, tout le monde, donc vous êtes très mal à l'aise. Et voilà, ça se traduit par des situations, des comportements qui sont à votre égard très dévalorisants, très dégradants parfois et parfois très humiliants, comme cette scène où je me suis retrouvée là à 8h du matin avec un type en face de moi qui me feint un acte sexuel. Et ça va pas, t'es... Voilà. Est-ce que l'inverse eût été possible? Je ne le pense pas. Est-ce qu'une femme se serait permise de faire ça à un homme en face de lui qui plus est président de la structure pour laquelle elle travaille? Je ne le pense pas.
Dès lors, on imagine, Béatrice Barbus, que vous conservez de votre passage à la tête du club d'handball d'Ivry un mauvais souvenir.
Un mauvais souvenir à la fin, incontestablement, parce que d'abord j'en ai eu des séquelles sur physique, j'ai déclenché une maladie après qui fait que voilà, je me la trimballe, elle est pas mortelle, mais effectivement très négative sur la fin, en revanche très positive au début, et globalement j'en tire une plutôt quelque chose de très positif, parce que ça m'a permis ensuite de rebondir et ça m'a permis aussi de voir quelles étaient mes limites, d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est ce qui a déclenché aussi l'écriture du livre. Donc, plutôt une expérience positive, on va dire, globalement.
Et alors, lorsqu'aujourd'hui, en tant que sociologue, ça n'est plus à la dirigeante sportive que je m'adresse, Béatrice Barbus, en tant que sociologue, vous voyez à la fois les progrès qui ont été accomplis en termes d'acceptation du sport féminin et puis ceux qui demeurent à faire. Alors le premier combat, j'imagine que c'est celui de la médiatisation.
Je ne sais pas s'il y a un premier combat. Alors la médiatisation en est un en tout cas très important, en effet, à la fois pour les sportifs de haut niveau, pour qu'elles soient vues, qu'elles soient visibles et que cela puisse attirer des sponsors, voilà, et qu'elles puissent donc faire leur travail dans d'autres conditions qu'elles ne le font actuellement. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'entre elles aujourd'hui, mais comme ça peut être aussi le cas chez les garçons, sont très en deçà du seuil de pauvreté et donc font du sport de haut niveau, alors dans des conditions catastrophiques, en tout cas sur le plan personnel.
Mais parce qu'il y a quand même un déséquilibre criant entre le sport masculin et le sport féminin, et notamment en termes de budget. Il y a un vrai gap, comme on dit en anglais, une vraie différence entre les deux.
Absolument, mais qui est une différence qui est tout à fait logique et normale lorsque l'on met les choses en perspective, surtout d'un point de vue socio-historique. Le sport féminin, j'avais envie de dire, ne fait quasiment que de débuter, surtout le sport féminin professionnel. Nous sommes en voie, chez les femmes, elles sont en voie de professionnalisation. Chez les garçons, ça fait maintenant 20 30 années que c'est bien entamé, et puis beaucoup plus pour un sport comme le football. Donc il y a un écart. Si on prend le football, puisqu'on est dans un J-2 de la Coupe du Monde féminine de football, si on prend le football masculin, il a plus d'un siècle. Le football féminin, en compétition en tout cas à très haut niveau, on ne l'a autorisé en France qu'en 1970. Donc vous voyez que le football féminin n'a quoi 30-40 ans, alors que le football masculin a plus d'un siècle. Donc il y a un retard à rattraper, et ce retard, eh ben, ça prend du temps. Pourquoi ? Parce que justement on est dans un environnement qui exclut au départ les femmes.
Bon, mais alors c'est pas vraiment le cas dans tous les sports. Alors, dans le hand, le handball, votre sport d'origine, Béatrice Barbus, un tiers des licenciés sont des femmes ?
Un petit peu plus d'un tiers, on est à 35% à peu près. Ce qui est pour moi très en deçà de ce que l'on devrait être. On devrait, nous, sport qui est considéré plutôt comme un sport mixte, puisqu'on est aussi performant chez les garçons que chez les filles, champion du monde, champion d'Europe, chez les filles vice-champion olympique et deux fois champion olympique chez les garçons, on devrait être à 40-60 ou 50-50. On est très en deçà de ce qu'on devrait être.
Bon, alors, il y a encore effectivement un écart à combler, mais oui, c'est déjà un chiffre important, 35% par rapport à d'autres sports. On parlait du foot, on est à 8%.
Au rugby, on est à moins de 5%.
Bon, donc on voit que votre sport d'origine est un sport où la part des femmes est déjà importante. Qu'est-ce qui reste à accomplir pour que le sport, le hand féminin, soit reconnu à l'égal du hand masculin ?
Ben, il manque la fameuse médiatisation dont vous parliez, et effectivement le fait que des sponsors soient intéressés, des partenaires soient intéressés et mettent de l'argent. Et vous voyez, ça tombe bien puisque la semaine dernière, la Ligue féminine de handball, qui est donc la ligue professionnelle qui représente les professionnelles filles du handball, a annoncé ce qu'on appelle... Alors, j'aime pas trop ce terme anglais, mais le naming. Donc, on a accroché un partenaire, et aujourd'hui, cette ligue est complètement financée, enfin pas complètement, elle est financée en partie par Butagaz.
Et l'aiguillage, justement.
Parce que la médiatisation aussi avancée pour le handball féminin français. Si on regarde le nombre de retransmissions ces dernières années, on a constaté qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Donc voilà. Donc du coup, ça ne suffit pas la médiatisation. Encore faut-il avoir des résultats. Parce que lorsqu'on est une femme dans le sport, et je ne le sais que trop en tant que dirigeante sportive, il faut en faire, comme dans les autres sphères de l'activité humaine, 3 fois, 4 fois plus que les hommes. Donc il ne suffit pas d'être performante, il faut être ultra performante.
Mais l'aiguillage, le fait de dire à un garçon, à une fille, qu'il a des sports vers lesquels il doit aller naturellement, et des filles qu'on ne veut pas envoyer dans tel ou tel sport, des garçons qu'on oblige à jouer au foot, pense à moi par exemple, donc, alors que manifestement justement, ils n'ont aucun don pour cela. Donc, quand on est confronté à ça, Béatrice Barbus, vous qui êtes sociologue, est-ce que vous voyez les mentalités évoluer ? Parce que ça, c'est probablement l'autre aspect après la médiatisation.
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est l'aspect le plus important. C'est la question, effectivement, des mentalités. Là, il y a deux niveaux, me semble-t-il. Il y a un niveau collectif. Dans les représentations collectives, évoluent beaucoup, grâce notamment à des grands événements sportifs internationaux comme la Coupe du Monde féminine de football, ou comme le championnat d'Europe de handball qui a eu lieu l'année dernière en novembre et décembre. Donc oui, d'un point de vue des représentations collectives, celle-ci semble évoluer un tout petit peu. Là, en revanche, il y a un deuxième niveau, c'est les représentations individuelles. Il y a un décalage entre les deux. Et quand on est sur le terrain, quand vous êtes dirigeante ou quand vous êtes joueuse ou quand vous êtes arbitre, et encore plus quand vous êtes entraîneuse, vous constatez que les représentations individuelles sur le terrain ont beaucoup de mal encore à évoluer, et que là, il y a des freins. En gros, c'est des hommes, parce que aujourd'hui, le pouvoir sportif est principalement masculin. Vous subissez tout le temps des remarques d'ordre sexiste, des attitudes, des comportements. C'est ça qui est usant, c'est ça qui est fatigant à la longue. Donc ça, ça va être le plus long. Ça va être le travail le plus long. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai à l'Assemblée générale, puisque je suis secrétaire général de la Fédération française de handball, on a parlé avec Sylvie Pascal Lagarde, qui était la présidente de l'Euro 2018, de la féminisation du handball, en disant qu'on ne fait pas assez de choses, qu'on est vraiment à la ramasse sur les postes d'encadrante, notamment d'arbitre, d'entraîneuse. Et donc on comptait sur les messieurs qu'il y avait en face de nous, et les dames aussi, puisqu'il y en avait quelques-unes. Et à la sortie de ça, il y en a certains qui ont considéré je reprends les termes qui ont été employés, qu'on les a gonflés avec cette question-là. Et j'ai dit à un président, si on vous gonfle, ça devrait donc avancer plus vite. Pourquoi ça n'avance pas plus vite ? Et c'est là que je vois le décalage qu'il y a entre, d'un côté, les représentations collectives, où on a le sentiment que les choses avancent, parce qu'on voit, et sur le terrain où les représentations individuelles sont restées parfois au 19e siècle.
Ah oui, vraiment, à ce point-là, ça veut dire qu'il y a...
Il y a des gens aujourd'hui...
Alors, j'imagine que dans certaines fédérations, dans certains sports, ça doit être encore pire. Alors, vous
football, évoquiez... Le football, la boxe, c'est terrible. Vous regardez sur les réseaux sociaux, si un jour vous avez le temps, vous regardez, amusez-vous à lire parfois les commentaires qui sont mis sur certains postes. C'est terrible. Moi, j'en sélectionne, j'ai une base de données. Voilà, le foot, ce n'est pas fait pour les femmes. Par exemple, ça, vous pouvez le voir quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux.
Et à contrario, j'imagine là aussi qu'il y a des hommes qui ont des difficultés pour faire tel ou tel type de sport.
Absolument, c'est une question d'ailleurs aussi que j'aborde un tout petit peu dans mon livre. De ce point de vue-là, je dis souvent que le sexisme n'a pas de sexe et qu'un homme comme une femme peut être prise dans une situation sexiste. Et c'est le cas pour certains hommes qui ne peuvent pas faire par exemple de la natation synchronisée ou de la danse parce que c'est Billy Elliot.
On écoute un extrait de ces pionnières du ballon rond avec les difficultés qu'elles ont eues pour s'imposer et il reste encore des efforts à accomplir.
C'est tout à fait hors de question que j'arrête le football pour quelqu'un, que ce soit un petit ami ou mes parents ou mes frères. D'ailleurs, dans le boulot que je fais, j'ai eu des problèmes avec mes frères, ils voulaient que j'arrête le football, ça me prenait trop de temps, j'ai tenu et puis c'est te concéder, c'est pas moi. Puis je continue à faire du football et puis je continuerai jusqu'à temps que mon entraîneur estime que j'ai plus ma place. On a beaucoup qui viennent en disant on va venir voir pour rigoler. Des jeunes de notre âge, hein. des clients moi, des copains, tout ça. Puis quand ils viennent, ils rigolent pas du tout. Ils sont contents, ils trouvent que c'est bien, ils reviennent.
J'ai compris ce que c'était que le sexisme intériorisé en fait. Le « je n'ai pas le droit ». Je suis une fille, je n'ai pas le droit. L'autocensure, de tous ses désirs, de toutes ses capacités, de toutes ses possibilités. Oui, oui, je l'ai vu. J'ai vu des filles partir hein, de Juvisy. Hein. J'ai découvert le sexisme massif et violent à 15 ans en fait. Parce qu'on s'est exposé en fait.
Les pionnières du ballon rond, les Juvisiennes légendes d'hier et d'aujourd'hui, c'est un extrait d'une histoire particulière, un récit documentaire en deux parties par Clémence Alézard qui est disponible dès à présent en réécoute sur le site de France Culture. Et ça vous parle les Juvisiennes et ce club de foot Béatrice Barbus?
Bien sûr que ça me parle, il a été fondé juste après l'autorisation par la Fédération Française de Football en 1970 de faire du football en compétition. Il a été fondé par une grande dame qui s'appelle Annie Fortems, effectivement, que je connais. Et puis vous avez effectivement fait des émissions là qui viennent juste de se passer.
Et
donc,
oui,
c'est un club pionnier avec une pionnière. Ah oui, tout à fait, parce qu'elles ont dû se battre pour créer ce club. Il n'y avait rien. Parce que le sexisme, c'est ça aussi, c'est que vous êtes considéré comme secondaire. Donc moins de subventions, moins de créneaux, des plus mauvais terrains quand vous en avez, etc. etc.
On va continuer à en parler avec donc cette Coupe du Monde de foot. On va aussi parler de tennis parce que en ce moment, il y a Roland Garros et là aussi, il y a une question d'égalité entre les hommes et les femmes et des autres questions qui se posent aujourd'hui pour les sportives. Béatrice Barbus, votre livre est disponible, Le sexisme dans le sport, paru aux éditions Anamosa et vous serez rejointe par Nathalie Yanetta qui est consultante pour TF1 qui va commenter les matchs de la compétition de foot. Il est 8h sur France Culture, très bon réveil à tous. Dans deux jours, l'équipe de France féminine de football affrontera la Corée du Sud pour l'ouverture de la Coupe du Monde féminine de foot, une compétition qui sera retransmise en grande partie sur la première chaîne de télévision en France, TF1, pour parler de la place du sexisme dans le sport et nous dire quel va être l'enjeu de cette Coupe du Monde de foot féminine. Nous sommes en compagnie de Béatrice Barbus, vous êtes sociologue et dirigeante sportive, vous avez joué au hand, on dit le handball, hein, c'est ça Béatrice Barbus.
C'est cela.
Et nous accueillons Nathalie Yanetta, bonjour.
Bonjour,
vous êtes
Guillaume.
Consultante pour TF1, vous allez commenter les matchs de cette compétition et moi qui ne connais rien au foot, qu'il soit masculin ou féminin, d'ailleurs Nathalie Yanetta, expliquez-moi un peu quel va être l'enjeu de cette compétition.
Alors l'enjeu de cette compétition d'abord c'est d'accueillir le monde parce que organiser un très grand événement sportif est le plus grand parce que la Coupe du Monde de football, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est le plus grand événement, de regarder différemment ces jeunes femmes qui vont évoluer sur les terrains de la France entière et puis de prendre beaucoup de plaisir et peut-être d'accrocher une étoile au maillot des filles, parce qu'elles n'ont pas de titre pour le moment, et de devenir championne du monde.
C'est un sport qui, aujourd'hui, a de plus en plus droit de cité. La preuve, d'ailleurs, il est télévisé.
Et puis, il est sur France Culture le matin, quand même. C'est hallucinant. Ben,
c'est pour
dans
ça,
l'émission
que...
de Guillaume Erner.
Incroyable.
Béatrice Barbus, cela témoigne effectivement d'une diffusion aujourd'hui. Pour autant, le foot féminin n'existe pas à l'égal du foot masculin.
Le foot féminin, d'abord, Guillaume, pardon, mais ça n'existe pas. La Coupe du Monde, elle est féminine. Le football, c'est le football. Il est joué par des jeunes, par des vieux, par des hommes, par des femmes. Mais c'est le même football avec les mêmes règles, sur les mêmes terrains.
Et avec les mêmes Allemands qui gagnent ?
Bah, souvent. Pour le coup.
Donc alors ça fait un autre point commun.
Non, mais c'est Béatrice Barbus. C'est pour un raccourci, si tu dois dire le foot pratiqué par les hommes. Le foot des hommes et le foot des filles. D'accord, ok. Alors on va dire ça.
Je vais faire ça pendant un mois. Ça va finir par rentrer.
Mais elle a tout à fait raison. Est-ce que vous dites d'une petite fille qui joue du piano qu'elle joue du piano féminin ?
Non. On ne dirait évidemment pas cela.
Vous diriez qu'elle joue du piano. Donc une fille qui joue au foot, elle joue au foot.
Et alors pour ce foot pratiqué par des femmes, Nathalie Iannetta, que reste-t-il à faire pour qu'il soit, disons, à l'égal du foot pratiqué par les hommes ? Ça va rallonger l'émission.
C'est pour ça, non mais on vous autorise.
De dire cela, si l'on considère qu'il y a encore quand même une grande inégalité, notamment en termes de sponsors, en termes de budget, en termes d'argent, ce qui veut dire que par exemple, les femmes qui pratiquent le foot sont généralement obligées d'avoir un boulot à côté parce que leur sport ne les suffit pas à les faire vivre.
Ah bah, il faut beaucoup de choses hein, pour combler ce retard, hein, vraiment. D'abord, il faut une médiatisation parce que plus on va les voir, plus on va avoir envie de les regarder, plus les entreprises vont s'y intéresser, plus elles vont donc donner de l'argent et c'est le cercle vicieux qui va s'enclencher. L'argent,
non, vertueux.
Oui,
vertueux, t'as dit vicieux.
Non, pardon, c'est
vertueux,
un lapsus. Parce que peut-être que c'est un cercle vicieux parce qu'elles-mêmes, les filles, disent que quand on va commencer à gagner de l'argent, on va aussi avoir des emmerdes, les mêmes que les garçons. C'est elles qui le disent.
Oh, mais il y a de la marge. Ouais, mais il y a de la marge. Hein. Il y a gagné de l'argent, il y a de l'argent.
Il y a beaucoup de marge parce que j'ai lu des salaires. Alors, pas forcément dans le foot, dans le hand, enfin bref, et dans le sport, des salaires qui étaient extrêmement bas, alors qu'on sait que les salaires des stars du sport sont des salaires de millionnaires. Là, on parlait de salaires de smicards.
Si vous voulez des ordres de comparaison, le handball, le basket, c'est à peu près de l'ordre, on va dire, en moyenne 2005 net, hein, voilà, par mois, mensuel.
Et pour les hommes ?
Pour les hommes, pour le handball, on est à peu près à 4 500 et pour les basketteurs, on doit être à 6-7. Voilà. Pour les rugbymen, on doit être dans l'ordre de 13-14. C'est des ordres de grandeur, hein, je me souviens.
Oui, parce que c'est des moyennes, évidemment,
ça dépend
les clubs
et
dans lesquels
le
vous
foot,
jouez.
Pour le foot, en L1, ça doit être de l'ordre, chez les garçons, ça doit être de 45 050 aujourd'hui. Alors que chez les filles, alors là, les statistiques,
on n'en a presque pas,
ouais, et on manque de données là-dessus. Mais chez les filles, bon, on a quand même des choses. Il y a le livre de Mélissa Plaza, là, qui vient de sortir, pas pour les filles, où elle donne quand même des indications. Donc, ça peut aller de 400-500 €. 1 500 euros. Oui, c'est la réalité du terrain. 1 500 €, c'est quand vous avez votre contrat pro, on va dire. Et puis, ça peut aller jusqu'à des émoluments aujourd'hui qui peuvent aller jusqu'à 15, 20, voire, j'ai entendu dire, 30 000 €.
Mais je crois sincèrement si on commence à comparer avec les garçons, on a perdu.
Absolument.
C'est là, vraiment, je pense que ce débat, c'est normal, c'est légitime qu'il s'installe. Mais j'entendais dans le journal de 8h chez vous que dans un groupe bancaire, il y a encore les femmes gagnent encore 20% de moins. Enfin, de quoi on parle sincèrement, quoi ? Est-ce que là, dans les métiers de la banque, les différences sont si flagrantes ? La réponse est évidemment non. Dans le football, c'est pas vrai. Il y a des grosses différences.
Lesquelles ?
L'argent du football, des garçons, il surgit pas de nulle part. C'est un écosystème qui s'est professionnalisé, c'est presque une bulle, on peut considérer, financière aujourd'hui, les tarifs des droits télé, les tarifs des sponsors, etc. C'est monstrueux. Les garçons, quand ils gagnent de l'argent, ils le génèrent par ailleurs. Donc, avant qu'on... Je ne sais pas si on comblera d'ailleurs...
On pourrait imaginer une redistribution, non ? C'est pas possible, Nathalie Iannetta.
Mais d'une certaine manière, il y en a une de redistribution par les infrastructures, par la Fédération française qui développe le football amateur grâce au football professionnel. Pour le coup généré par les garçons. Maintenant, on peut toujours considérer que ça n'est pas assez. Par exemple, la Fédération française de football, là, elle le prize money, ce qu'on appelle, ce que la FIFA va donner aux vainqueurs de la Coupe du Monde,
les dotations,
c'est la prime de victoire. Voilà, si vous préférez, ils donnent 30% aux garçons. de cette prime de victoire. Ce qu'ils ont fait, donc, après la victoire en Russie. Ils donneront 30% aux filles aussi. Le problème, c'est 30% de 40 millions, c'est pas la même chose que 30% de 4 millions. Voilà. La différence, elle se fait là. Moi, je pense que les instances internationales ont un très gros rôle à jouer. Le jour où le prize money, donc, ce fameux jackpot d'une victoire en Coupe du Monde sera le même pour les filles que pour les hommes, là, tout de suite, ça sera différent. Et franchement, Guillaume, entre vous et moi, pour la FIFA, 40 millions de dotation pour le vainqueur de la Coupe du Monde, si on découpe sur 4 ans, puisque c'est 40 millions tous les 4 ans, ça fait en gros 8 millions par an, 8 millions et demi. Pour la FIFA, ça passe crème, hein. Il pourrait faire le même billet gagnant pour les hommes que pour les femmes, ce qu'a très bien fait Roland Garros, qui a été le premier tournoi du Grand Chelem sur le circuit de tennis, a donné la même prime pour la femme vainqueur de Roland Garros que pour le garçon vainqueur de Roland Garros.
C'est ce que fait le handball, nous avons donné les mêmes primes, c'est ce que nous faisons.
Bah ouais,
nous
mais là, non, mais vous avez tort de nous avoir invité les deux, vous n'allez pas en placer une.
Apparemment, c'est prime. C'est
important ce que je veux dire, c'est que nous, on donne égalité de moyens.
Il y a du woman's planning, comme on dit maintenant.
On en profite, c'est pas souvent. Donc, il y a égalité, nous, handball, il y a égalité de moyens. À la fois des primes et à la fois des moyens humains que l'on met à disposition pour les staffs. Et bien, les résultats sont là. Donc, à égalité de moyens, ça paye.
Alors justement, égalité de moyens, parce qu'en tout cas, il y a une joueuse qui n'est pas contente.
On lui laisse.
S'il vous plaît, j'aimerais juste poser une petite question sur Ada Hegerberg, qui est donc la joueuse norvégienne, qui elle a décidé de boycotter le tournoi. Elle est Ballon d'Or 2018 et elle trouve que le fait qu'il n'y ait pas de dotation égale, et ben, ça veut dire qu'elle ne viendra pas.
Oui, elle a...
C'est une sportive engagée.
Oui, absolument. Elle a dit à sa fédération, dans ces conditions, ce sera sans moi la Coupe du Monde. Elle s'est privée elle-même. Hein. C'est la meilleure joueuse du monde. Elle est Ballon d'Or de cette année, hein, Guillaume. C'est la meilleure joueuse de l'année. Elle joue à l'Olympique Lyonnais. Elle est championne d'Europe, donc avec les Lyonnaises.
Et elle est très jeune.
Elle est très, très jeune. Elle a 23, je crois.
22, 23.
Ça veut dire aussi... Donc elle s'en prive, mais ça veut dire aussi qu'elle en a un gros... Vous voyez ?
Oui, mais... Peut-être qu'il va falloir en passer par là.
C'est pas peut-être, c'est une certitude.
À certains moments.
C'est pas peut-être, c'est une certitude.
Les Américaines, elles l'ont fait. Elles ont lancé un procès contre leur fédération, les Américaines, pour demander une égalité de traitement.
Nathalie, bon, mais ça veut dire aussi que.
Attendez. Si les femmes, si les sportives ne s'engagent pas plus individuellement et collectivement, c'est clair qu'on va pas réussir à avancer. Donc cet engagement féministe de Ada Hegerberg est important, extrêmement important sur le plan symbolique.
Et elle sera à TF1 avec nous tous les soirs et je suis hyper fière de l'avoir à nos côtés, vraiment.
Il faut quand même dire qu'elle vient de l'Olympique Lyonnais qui est un club qui a été pionnier pour le foot féminin, Nathalie.
Professionnel, en France.
Oui, Jean-Michel Aulas a eu une intuition absolument géniale il y a une dizaine d'années.
Qui s'occupe de ce club.
Qui est le président de l'Olympique Lyonnais.
Merci.
Il a eu cette intuition géniale, il s'est dit, intuition d'entrepreneur, hein. Il s'est dit, il va falloir diversifier les rentrées d'argent. Et il s'est dit, le foot masculin, il avance. Il avance avec les droits télé qui augmentent, etc., etc. Quel va être l'autre pilier de ressources que je pourrais trouver ? Il s'est dit, les filles. Et il a compris une chose, c'est que pour que les filles gagnent, faut les mettre dans des structures et dans des situations équivalentes aux garçons. Vous disiez tout à l'heure, arrêter par exemple de devoir travailler la journée pour pouvoir se consacrer aux entraînements. Avoir des infrastructures qui sont des infrastructures professionnelles où vous pouvez très bien courir, très bien récupérer, avoir un staff médical. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous devenez des championnes. Et la performance physique, elle se mesure concrètement. Et il a mis tout le monde dans le vent, Jean-Michel Aulas. Il y en a un autre qui a eu cette intuition, à Montpellier, Loulou Nicolin, qui est décédé il y a quelques mois. Louis Nicolin, on ne pouvait pas le taxer d'être le plus féministe d'entre vous, messieurs.
C'était un personnage un peu représentatif du
machisme. Truculent, comme on dit gentiment. Sauf que lui, il a mis les moyens dans le hand, dans le foot, y compris pour les filles et les garçons.
Alors il faut.
C'était un féministe en action, comme on dit. Voilà. Il n'était pas féministe institutionnellement, mais en action, il l'était.
Il faut aussi rappeler que l'Olympique Lyonnais, du coup, pour les femmes, a remporté la Ligue. C'est un peu l'équivalent du Real Madrid.
C'est la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions.
Absolument.
Nathalie Yanetta, ça veut dire que ce club a aujourd'hui un niveau d'excellence européen ?
Ça veut dire que ça marche et il attire les plus grandes joueuses. Parce qu'on parle d'Ada Hegerberg, elle est là. Ils ont signé Alex Morgan, une grande américaine qui est une des plus grandes stars.
Combien il y a de Lyonnaises dans l'équipe de France là ?
Il y en a 8.
23. 8, donc voilà.
8 Lyonnaises.
Parce que le football se joue à 23, donc.
Non,
c'est vrai. Bien sûr que oui. Le football, il se joue à 23.
Une Coupe du Monde se gagne à 23.
Ouais.
Une Coupe du Monde se gagne à 23 et absolument pas à 11. Toute compétition qui dure plus de 15 jours sur 3 semaines, elle se gagne forcément en équipe. Et donc pour ça, vous avez besoin d'avoir des remplaçantes, des personnes qui sont là si on a besoin d'elles au moment où il faut.
D'autres sports qui semblent plus féminisés, mais où il y a encore beaucoup de boulot à faire, puisqu'il y a actuellement, je crois, du tennis à Roland-Garros, Nathalie Yanetta.
Il n'y a plus de Français à Roland-Garros.
Bon, mais ça, c'est comme chaque année, je crois. Oui, c'est pas quelque chose de très significatif.
Si, il me semble qu'il y en a en
double, peut-être.
En non-valide.
Ah, peut-être, voilà.
C'est même une certitude, je pense.
Mais aujourd'hui, les efforts justement à accomplir pour que les femmes qui jouent au tennis soient l'égal des hommes, parce que là aussi, il y a beaucoup de boulot, les dotations ne sont pas les mêmes, enfin bref, on peut reproduire le discours. Le diagnostic est-il aussi difficile à faire pour le progrès des femmes dans le tennis que dans le foot, Nathalie Yanetta?
C'est différent, parce que d'abord, c'est un sport individuel. Donc là, vous pouvez presque seul gérer votre structure d'entraînement. Vous choisissez votre coach, il faut avoir des gros moyens, mais je pense qu'on peut difficilement comparer en termes de progression les sports individuels et les sports co. Les sports co majoritairement ont une virilité dans l'imaginaire collectif. Même le hand, qui est quand même le sport le plus mixte qu'on connaisse, puisque à l'école on a tous joué au hand, filles comme garçons mélangés, il n'y a pas 50% de filles qui licenciées à la fédération de handball. Donc les sports co vraiment... culturellement, historiquement, c'est des équipes de mecs. Voilà. Et c'est pas grave. Je vais vous dire un truc. Ça n'est pas grave. Ce qui est compliqué, c'est que ils sont partis plus tôt et ça prend du temps à rattraper leur retard. Mais on peut faire ces comparaisons, y compris avec des équipes de garçons. Le rugby se rêve de devenir un sport aussi puissant et aussi populaire que le football. Mais, ça va
mais
être
si
compliqué.
Si je peux me permettre, c'est pas seulement l'histoire de sport individuel, sport collectif. Si je prends l'athlétisme, on n'est pas du tout dans le même cas que des tennis women. Le tennis, il y a quelque chose en plus, c'est qu'il y a surtout une femme qui s'est battue, Billie Jean King, dans les années 70.
Qui est-ce
pour une égalité salariale. Il y a à l'image d'Edgar Edgarberg, il y a une femme.
Dites-nous qui elle est.
Billie Jean King, c'est une grande championne de tennis qui, en 1974, me semble-t-il, a décidé de créer une ligue, un circuit professionnel féminin, parce que dans le circuit professionnel masculin, on ne souhaitait pas que les femmes soient rémunérées à la hauteur des garçons, ni même rémunérées. Donc elle a dit...
Un film lui a été consacré l'année dernière.
La bataille des sexes, effectivement, puisque c'est le match qu'elle a remporté contre un homme de plus de 50 ans, un match qui a été suivi par tout le monde et qu'elle a remporté haut la main. Alors, soi-disant, elle aurait été j'en sais rien, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est levée et que grâce à elle, il y a un mouvement effectivement qui s'est créé dans le tennis et qui fait que quelques décennies après, elles ont obtenu dans les plus grands tournois, en effet, l'égalité des prize money.
Mais alors, il y a des stars, c'est-à-dire que l'on joue seul ou que l'on soit dans un sport collectif, il y a des stars dans tous les sports. Les footballeurs sont évidemment plus que médiatisés. Il y a des femmes qui commencent à être médiatisées dans le foot. Amandine Henry, la capitaine des Bleus, qui est-elle? Pouvez-vous nous la présenter, Nathalie Yanetta?
Amandine Henry, c'est probablement... celle qu'on pourra estampiller génération 2019, c'est-à-dire que elle a commencé à jouer d'abord avec ses copains, les garçons, parce que au départ c'est toujours ça l'histoire des femmes qui jouent au foot, c'est
les
que
les
copains, les voisins, des garçons qui acceptent d'ailleurs que les filles viennent, parce que c'est pas évident. Donc il y a un premier truc qui s'appelle la transgression, c'est-à-dire que gosse, elle a décidé qu'elle allait aller jouer au foot dans son quartier, dans sa rue, avec ses garçons. Puis vraiment, elle décrochait pas, quoi. Donc, elle a fini par trouver une section où elle pouvait jouer au foot. Et puis, elle a développé des aptitudes assez étonnantes lorsqu'on regarde jouer Amandine Henry. Franchement, j'espère qu'elle va être rétablie d'ici vendredi, parce que l'équipe
de
France.
Elle est malade.
Elle s'est vrillée un peu le dos, donc pour le moment elle est blessée, elle n'a pas joué le dernier match de préparation face à la Chine.
C'est fragile, les sportifs.
Pourquoi il faut être 23.
Pourtant je pensais que les hommes étaient plus fragiles que les femmes.
On est fragile tout autant qu'un homme, et un homme est tout autant fragile qu'une femme, il n'y a pas de différence là-dessus.
Vous qui avez entraîné des hommes au hand.
Là, j'ai pas entraîné, j'ai présidé, j'ai joué surtout, je peux vous dire que ça fait aussi mal pour un homme que pour une femme, il n'y a pas de souci. Après, c'est la manière dont le rapport que vous avez à la douleur, et dans le sport, on est dans un espace où le dolorisme est maître, Donc, la douleur fait partie du travail, c'est normal. Et d'ailleurs, quand vous sortez d'un entraînement, vous n'avez pas mal, souvent on vous dit, c'est que tu t'es pas donné assez.
Nathalie Yanetta, s'il fallait distinguer le jeu, je parle uniquement du jeu au foot des hommes et des femmes, il y a une différence ou pas?
Oui. Il y a une différence, évidemment. Vous savez, Johan Cruyff, qui est probablement l'un des plus grands joueurs et l'une des plus belles personnalités dans l'histoire du football, et je vous encourage vraiment à lire sa biographie, vous qui n'aimez pas le football, mais qui aimez lire, ça peut marcher, hein, je vous assure, c'est formidable. C'est un type absolument génial, une espèce de punk dans une culture plutôt bien rangée des années 70. Il disait, c'est très simple de jouer au football, mais il n'y a rien de plus compliqué que de jouer simplement au football. Et les femmes, elles jouent simplement au football. Parce que d'abord, il y a un problème physique, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la culture athlétique extrêmement vigoureuse du physique. Donc, quand vous n'avez pas ça, ben, faut jouer vite, hein. À un moment, tu compenses ton déficit physique avec de la vitesse et avec de la précision. Ça veut dire qu'elle
court beaucoup plus vite que les hommes ?
Alors, je ne sais pas si elle court plus vite, je ne pense pas. Ça, physiologiquement, ça saurait si les femmes couraient plus vite que les hommes. Mais en revanche, elles ont un système de jeu qui est très rapide. Et puis, elle joue pour le plaisir. Il y a un spot publicitaire absolument génial que j'encourage tous les auditeurs à aller regarder, qui est le spot qu'a fait l'équipe d'Allemagne. Les Allemandes, franchement, il y a 1 million de licenciées filles en Allemagne. Enfin, c'est monstrueux la culture. Elles ont des titres de manière spectaculaire. Et dans ce clip, elles disent, vous savez, celles dont vous vous souvenez pas du nom, celles qui sont multi-championnes mais dont on parle jamais. Et à la fin, la philosophie, c'est nous de toute façon, en gros. On n'a pas besoin de vous parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu, c'est jouer. Et ben, les filles, elles sont encore dans cet amour du jeu et ce plaisir de jouer.
Vous en pensez quoi, Béatrice Barbus ?
Pour le moment, c'est le cas, en effet. Je pense que si...
C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore contaminées par l'argent.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non, par l'argent, mais aussi, elles sont pas encore... elles n'ont pas subi pendant des années la préparation physique que les hommes ont suivi. Donc là, aujourd'hui, elles se mettent à la musculation. Prenons le cas de la musculation. Aujourd'hui, elles font de la musculation.
Oui, parce que les joueurs ont tendance à épaissir.
Et ça enlève de la vitesse, ça enlève tout ça. Enfin, ça dépend comment vous travaillez la muscule, évidemment. Mais pour gagner en
densité
physique...
Vous voulez
dire
qu'on peut la travailler avec des méthodes...
Non, je ne pensais pas du tout à ça. Je pensais plutôt à quelle partie du corps vous faites travailler quand vous faites de la musculation en fonction du sport que vous faites. Donc la densité physique va s'accroître chez les femmes et je pense que dans les 10 ans qui viennent, c'est des jeux qui se ressembleront. L'argent va arriver. Vous savez, je dis souvent, les femmes ne sont pas plus vertueuses que les hommes.
Non, c'est vrai.
Donc il n'y a aucune raison qu'elles s'en sortent beaucoup mieux si l'argent arrive massivement,
exactement,
comme ça a été le cas dans le football.
Exactement.
Masculin. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est exactement l'état du moment du football féminin. Effectivement, c'est un jeu qui est beaucoup plus facile à
assez
mieux
fluide,
placé
voilà,
que
beaucoup,
moi pour le voir.
Il y a encore des injustices difficilement évitables. Alors par exemple, la question de la maternité. Et là, comment
il n'y a pas que la maternité, parce que la maternité, ça vous arrive 2, 3, 4 fois dans une vie. Donc, alors qu'il y a un truc qui vous arrive tous les mois, par exemple, et dont on ne parle jamais lorsqu'on est une sportive, c'est très compliqué. Et il y a une jeune femme, une gymnaste chinoise, qui était une des favorites. Alors, je me souviens plus très bien si c'était la poutre ou le sol, mais peu importe, et qui rate totalement son concours aux Jeux Olympiques. Et une journaliste lui pose la question, mais comment ça se fait, etc. Et en poussant un peu, elle finit par dire, il se trouve qu'hier soir j'ai eu mes règles et c'est très compliqué, en fait j'étais pas dans mon assiette. Et ça, c'est une donnée physiologique, on va pas en vouloir aux garçons, c'est pas de leur faute, mais sur une compétition d'un mois, ça va vous arriver. Donc oui, il y a des problèmes qui sont intimement liés à ce que nous les femmes nous sommes et nous vivons chacune dans nos vies personnelles et nos quotidiens et nos vies professionnelles. C'est des données que les femmes apprennent à gérer, mais oui, il y a des vrais sujets que les hommes ne rencontreront jamais.
Regardez les abdominaux, on nous a fait faire, moi à mon époque, des abdominaux qu'on ne fait plus faire aujourd'hui aux femmes. Parce que ça provoque effectivement les centres d'organes, etc. Donc, c'est des choses physiologiquement, et bien évidemment qu'il y a des choses qui doivent être adaptées à la physiologie des femmes et bien entendu des hommes. Mais pour en revenir à ce dont vous parliez, il est très clair qu'aujourd'hui, les progrès... On en a fait, ça a avancé énormément au football en particulier ces dernières années.
C'est une accélération monstrueuse.
En 4-5 ans, elles ont fait un chemin qu'elles auraient dû faire en 20 ans ou 30 ans. Donc les choses avancent. Il faut juste laisser le temps au temps un petit peu. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein, enfin non, en tout cas on va dire un quart plein. Il y a encore beaucoup de choses à faire avancer. Je voudrais juste vous lire un extrait de ce que peuvent entendre les footballeuses aujourd'hui dans un vestiaire.
Allez-y.
C'est extrait du livre de Mélissa Plaza. C'est
Donc cette joueuse c'est, de vous.
Ouais, non, je vais pas dire sur le truc sur Laura George. Non, d'accord. On parle de femmes là, pardon. On parle de sexisme, on parle pas de racisme.
Parce qu'il y a des combos parfois.
Donc voilà, et c'est vous voulez faire les salopes avec moi ? Il pointe alors son index sur chacune d'entre nous et ajoute qu'il va toutes nous baiser une par une. L'homme conclut par, s'il n'y a pas un 8-0 à la fin du match, vous rentrez à pied. Donc ça aussi, c'est une réalité que certaines d'entre elles vivent aujourd'hui. Heureusement que ce n'est pas tout le temps et tous les jours, parce que sinon ça deviendrait invivable. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut qu'on se rende compte à quel point ces comportements-là font plus que fatiguer les femmes. Certaines abandonnent, mais elles font du mal. Ces comportements font du mal. Moi, c'est le message aujourd'hui que je voudrais que les gens retiennent. Alors, plutôt que de faire du mal, essayons d'être bienveillants et essayons de soutenir au maximum ces footballeuses qui, dans deux jours, vont aller, j'espère, conquérir le plus beau titre qu'il y a dans le sport, la Coupe du Monde. Soutenons-les et arrêtons de tenir des propos sexistes. Arrêtons d'avoir des comportements sexistes. Arrêtons de les regarder comme si ce n'étaient pas des femmes. Elles sont femmes et elles n'ont pas besoin de prouver leur féminité.
Et elles ne vont pas femmes. S'excuser.
Nathalie, et elles ne vont pas s'excuser en effet.
Votre réaction par rapport à ça ? Y compris d'ailleurs en tant que journaliste sportif, puisque là aussi, pour parler de foot, il y a peu de femmes. Vous êtes
il y en a de plus en plus quand même. Vraiment. Moi, j'ai commencé à Canal en 1997. J'étais
Est-ce
toute
que ça a
seule.
Été compliqué ?
Non, c'était pas compliqué, mais c'est justement là où il y a où ça a provoqué chez moi une forme de d'interrogation. Moi, j'étais pas spécialement féministe, forcément. Enfin, je travaillais, je considérais que c'était normal si j'avais telle ou telle chose, et je me disais bah. En fait, il n'y a pas
mais
de sexisme.
Mais dans le fait de vous intéresser au
foot.
Non,
mais il n'y a pas de sexisme parce que ça se passe bien pour moi, donc ça doit bien se passer pour tout le monde. C'est pas vrai. J'ai compris que on était les rares qui étaient arrivés à certains postes à responsabilité n'étaient pas du tout des exemples. On était des exceptions, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Absolument.
Donc oui, il faut réellement faire tomber des barrières culturelles. C'était difficile dans la mesure où, oui, je devais presque me justifier d'aimer le football et d'avoir fait des études. Je vous rassure parce que ce serait quand même, tout ça est très, quand même très, très compliqué au nom de quoi, on devrait se mêler d'un sport aussi populaire que le football. Et fondamentalement, tout ça, petit à petit, et c'est là où je rejoins Béatrice, il faut beaucoup de temps. Le vrai problème, c'est que pendant longtemps, les garçons se sont dit « Oui, mais vous avez du retard, mais c'est pas grave, ça va venir, il faut du temps. » Mais en restant croisés, les bras croisés, assis sur un trottoir. Or, on sait que, et c'est valable en politique, et c'est valable dans les grandes entreprises, il faut du temps, mais il faut aussi une volonté politique.
Et puis, il y a des sports où il y a absolument pas de femmes. Et là, je m'interrogeais, par exemple, en Formule 1, il y a a priori pas de véritable bonne raison.
Si, il y en a. Physiquement, c'est compliqué, la Formule 1, quand même. On se rend pas compte.
Mais personne pense que ce n'est pas dans une monoplace.
C'est pas une question seulement de physique. Là, c'est une question de rôle. C'est pas à vous que je vais apprendre, sociologue, ce qu'est un rôle, ce que l'on attend de nous en fonction de la place que l'on a dans la société. Est-ce qu'on attend de la part d'une femme qu'elle fasse des vidanges ou qu'elle s'occupe de la voiture?
Alors, dans ce cas-là, non. Ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait être modifié rapidement.
Il y a rapidement, des femmes... non, les mentalités,
il y a eu par exemple Michel Mouton.
Oui, mais c'était
rallye.
Du rallye.
C'était du rallye.
Mais vous n'avez cité que des exceptions.
Il y a Margot Lafitte.
Mais si on a une exception, il peut y en avoir d'autres.
C'est une très très
bonne exception. Mais si, à condition de les montrer à la télévision, on parlait de médiatisation, si vous voulez qu'elles se soient des rôle modèle, si encore faut-il les voir. Petites filles, elles ne peuvent pas devenir ce qu'elles ne voient pas, comme elles ne peuvent pas devenir ce qu'elles n'entendent pas. C'est pour ça, moi aussi, que je milite pour qu'on dise entraîneuse et non pas entraîneur, sélectionneuse et ne pas sélectionneur. Parce que vous n'entendez pas à la voix que c'est une femme qui tient la fonction. Or, c'est important de le signifier. Je ne le sais que tôt en tant que présidente, parce qu'on m'appelait toujours président et non pas présidente.
Présidente Béatrice Barbus.
Merci.
Nathalie
Yanetta,
qu'est-ce qui va se passer ? Racontez-nous le menu de cette Coupe du Monde de foot qui va donc débuter vendredi.
Alors, vendredi, match d'ouverture au Parc des Princes. C'est le pays hôte qui ouvre, donc la France qui reçoit la Corée du Sud. C'est un mois de compétition, phase
finale. Ça va
se
dérouler où ?
Alors, il y a 9 villes hôtes qui ont été retenues. Il y a quelques matchs donc à Paris, il y en a à Rennes, il y en a à Nice. Alors évidemment, je vais en oublier, à Nice, à Grenoble.
Oui. À Lyon,
à Valenciennes, à Reims, voilà, j'en ai donc oublié. Ces villes m'excuseront parce que d'ailleurs je tiens à saluer vraiment le travail que chaque ville hôte a accompli tout autour de cette Coupe du Monde. Le fait d'obtenir cette compétition a permis au territoire de se mobiliser pour faire connaître déjà la Coupe du Monde. Parce que quand on organise une Coupe du Monde de garçons, je pense que si vous faites un micro trottoir 15 jours, 3 semaines avant dans la rue, même les gens, même vous, vous, Guillaume Herner, qui n'aimez pas le football, vous répondez spontanément, il va y avoir la Coupe du Monde. Les filles, il y a encore des gens qui ne savent pas que nous organisons la Coupe du Monde
Manuel
féminine.
Manuel le sait. Non,
on travaille quand même à la promotion de cette Coupe du Monde.
Ils ont fait un énorme travail d'activation sur les territoires emmenés par la Fédération française. Et ils ont ouvert aussi leurs portes aux parents dont les petites filles ont peut-être envie de jouer au foot. Et jusqu'ici, on leur disait non, t'as pas le droit, maintenant c'est oui, c'est possible.
On va suivre tout ça sur votre chaîne Nathalie Yanetta TF1 qui va donc retransmettre et sur laquelle vous commenterez ces matchs de foot. Béatrice Barbus, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le sexisme dans le sport, c'est paru aux éditions Anna Mozart.